BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur BPM, il est 7h30. À cette BPM vous propose des émissions spéciales aujourd'hui consacrées au deuxième tour des élections législatives dans la 9e circonscription. Nous accueillons ce matin Bruno Millième, député sortant et candidat de la majorité présidentielle Ensemble. Bruno Millième, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous avez 62 ans, vous avez été conseiller régional de 2015 à 2021. Vous êtes donc le député sortant de la 9e circonscription où vous siégiez à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors revenons ensemble, Bruno Millième, sur les résultats de ces élections. Alors au niveau national, votre majorité Ensemble l'emporte avec 25,75% des voix. Juste derrière vous, les NUPS, 25,66%. Le Rassemblement National, troisième, avec 18,68%. Les Républicains, 11,29%. Et Reconquête, 4,24%. Seulement 21,441 voix vous séparent des NUPS. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ?
Alors, d'abord, je voudrais quand même dire à vos auditeurs que c'est la première fois de l'histoire de la Ve République où un président sortant est réélu avec sa majorité. Ça n'était jamais arrivé, donc ça c'est première chose. Deuxième chose, si vous regardez le score de NUPS, qui est l'ensemble des forces de gauche, hein, finalement c'est la gauche réunifiée, et que vous regardez les différents scores dans les précédentes élections, vous vous apercevez qu'ils ont beau dire qu'ils sont en progression, oui ils sont en progression, mais ils sont quand même 1 point ou 1,5 en dessous de l'addition des différentes gauches quand ils n'étaient pas unis. Donc cette histoire d'union, qui est quand même, on va le dire, un attelage assez baroque, parce que moi je vous fais le pari que dès l'instant où l'Assemblée nationale sera constituée, tout ça va voler en éclats, parce que notamment je ne vois pas les socialistes continuer à être soumis à l'insoumis. Donc il y a un moment, comme ils vont avoir leur groupe, ils vont reprendre leur liberté, et ils ne peuvent pas faire autrement, parce que leurs électeurs, s'ils ont accepté cette alliance pour conserver des sièges et pour avoir encore une voix à l'Assemblée nationale, n'accepteront pas que les socialistes sucent la roue, si je peux me permettre, de Jean-Luc Mélenchon.
Mais c'est ce qu'on disait d'En Marche, hein, quand Emmanuel Macron est arrivé. Des gens de gauche, des gens de droite, des centristes comme vous, ils vont jamais s'entendre.
Sauf que là, pour le coup, on était d'accord sur le projet. Que là, déjà, avant même la constitution de la NUPES, et même au moment de la signature de l'accord, ils étaient déjà pas d'accord sur beaucoup de sujets, notamment l'Europe, pour ne citer que ça. Donc là, il y a une vraie différence philosophique et politique entre les socialistes et la France insoumise, mais même entre les communistes et la France insoumise. Je dirais, à la limite, dans cet appareil un petit peu baroque, comme je le disais, ceux qui sont le plus proches de la France insoumise, ce sont Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, ils ont fait un trait sur le E de Europe, hein, Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, nous, c'était complètement différent. Ça a été rassemblé autour d'un projet dont tout le monde partageait l'ambition.
Alors, on va revenir dans la 9e circonscription des Yvelines. Vous êtes arrivé en tête avec 26,34% des voix. Deuxième, Laurent Morin du Rassemblement National avec 22,45% des voix. Troisième, Victor Payac avec 22,25% des voix. Il y a 88 voix.
Il y a 88 voix d'écart, oui.
Voilà.
Payac et Morin.
Pauline Vinocourt, Lefebvre, 10,22%. LR et Christophe Lehot, Reconquête, 5,44%. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres dans la 9e ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Dans la 9e, comme ailleurs, il y a déjà un fait marquant que j'imaginais pas à ce point-là, c'est l'effondrement total des Républicains, puisque sur l'ensemble des Yvelines, aucun candidat LR n'est qualifié pour le deuxième tour. NUPS, c'est effectivement emporté par la vague d'un leader assez charismatique et assez tribun, assez populiste, qui est Jean-Luc Mélenchon, mais qui sait très bien faire. Donc évidemment, il y a cette espèce de fantasme de l'union de la gauche qui revient et qui a poussé effectivement les électeurs de gauche à voter pour la NUPES, on l'a vu partout. Moi, je suis la seule circonscription où je suis face à un candidat du Rassemblement National, ce qui n'est pas tellement étonnant sur la 9e, parce que si vous regardez les précédentes élections, en tout cas du plus loin que je me souvienne depuis que j'ai commencé un petit peu à avoir des responsabilités politiques sur la 9e, c'est-à-dire depuis que je suis devenu conseiller municipal à Jumeauville en 2014, j'ai vu, effectivement, le RN progresser sur la 9e régulièrement, scrutin après scrutin. Donc, je suis pas très étonné. En revanche, il y a un petit détail qui est quand même assez frappant. J'ai toujours comparé la 9e circonscription à une espèce de petite France. Parce que vous avez la politique de la ville avec les muraux, vous avez les petites villes de demain avec Épône, Mézières, Aubergenville, etc. Et puis vous avez la ruralité. Et si vous regardez bien les scores des législatives, ils sont à 1% près, je crois, à l'identique de ce qui s'est passé au national pour la présidentielle. C'est quand même intéressant de le noter.
Alors, le taux d'abstention, il est quasi pareil qu'au niveau national. 52-49 au niveau national. Dans la 9e, c'est 52-94. Comment expliquez-vous ce chiffre? Un désaveu vis-à-vis des politiques?
Non, je pense qu'il y a. On voit bien le glissement hein, depuis 2002. Si vous regardez les chiffres d'abstention.
À toutes les élections, ça.
Ouais, à toutes les élections, il y a une érosion. C'est de notre faute, c'est de la faute des politiques. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. On sait pas forcément bien expliquer les choses qu'on fait. Il faut qu'on mène des expériences pour remettre les citoyens au cœur du débat public et pour qu'ils voient.
Comment on fait? Parce que.
Comment on fait? Moi, j'avais fait des propositions lors des municipales. Alors, les propositions, on m'a dit oui, tiens, c'est intéressant, on va peut-être le faire. Puis personne l'a fait. Moi, si j'avais été candidat au municipal, j'aurais proposé dans mon programme que sur les grosses commissions des municipalités, notamment prenons l'urbanisme, qui est une commission importante, hein, puisque c'est le développement de votre ville, j'aurais proposé une commission miroir aux citoyens de la ville. C'est-à-dire que sur un sujet donné, vous travaillez, l'exécutif municipal travaille, et de l'autre côté, en miroir, les citoyens travaillent de leur côté. Et puis après, on confronte les deux résultats. Deux avantages à ça. Premier avantage, c'est qu'il n'est pas interdit de penser que les citoyens puissent amener des idées que les élus n'ont pas forcément parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Et c'est un petit peu difficile, quand vous avez la tête dans le guidon, de voir des choses de manière tout à fait claire tout le temps. Mais deuxième idée très intéressante aussi, c'est que ça permet aux élus d'expliquer aux citoyens les contraintes qu'ils ont de par la réglementation, de par les lois, que les citoyens ne connaissent pas forcément. Donc, un, vous récupérez des idées des citoyens, donc vous les associez à l'action publique, d'accord, au niveau des municipales. Et deux, à l'inverse, les élus municipaux, finalement, éduquent les citoyens aux règles et aux lois en vigueur dans notre pays, ce que les gens ne connaissent pas forcément. Eh bien, personne ne l'a fait, je le regrette. Moi, vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé, je pense, j'ai monté un think tank qui s'appelle Confluence Yvelines, pour essayer de remettre en connexion les citoyens avec l'action publique. Mais c'est pas moi qui interviens. J'ai toujours un grand témoin sur les thèmes, et c'est le grand témoin qui intervient, qui raconte sa propre expérience. Je prends un exemple, agriculture et transition écologique, qui est un vrai sujet quand on a fait ce débat-là. Moi, je suis là comme une espèce de monsieur loyal pour répondre aux questions légistiques que se posent les citoyens, pour leur expliquer ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait. Et le grand témoin, c'était un agriculteur, Marc Barrier, que je salue, qui est un soutien important pour moi. Et pourquoi j'avais pris Marc Barrier, agriculteur à Carville? Parce qu'il fait à la fois du conventionnel et du bio. Donc il a su expliquer à l'auditoire les avantages et les inconvénients des deux façons de faire de l'agriculture. Et c'était passionnant, et il y avait beaucoup d'associations écologistes qui étaient là, et finalement ils ont continué à discuter hors débat, et ça permet de reconnecter aussi les citoyens. Et puis dernier point pour l'abstention, si vous me permettez, c'est qu'il faut qu'on change quelques règles quand même au niveau constitution. Vous savez que le MoDem porte depuis longtemps en lui l'histoire de la proportionnelle, donc j'espère bien que cette fois-ci on va y arriver.
Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer en deux minutes la proportionnelle pour nos auditeurs?
La proportionnelle...
Qu'est-ce qui changerait?
La proportionnelle, alors d'abord il faut qu'on voit comment on l'a fait, parce qu'il y a du scrutin de liste, c'est un peu compliqué. Techniquement c'est un petit peu compliqué, mais l'idée de la proportionnelle c'est que, c'est dans son titre, c'est que effectivement tous les courants de pensée, tous les courants politiques d'un pays puissent être représentés à la Chambre des députés. Ce qui, quelque part, est normal. Enfin, la Chambre des députés, c'est l'Assemblée du peuple. Les députés sont élus par le peuple. À la différence des sénateurs qui sont élus par les grands élus, nous sommes élus par le peuple. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une meilleure représentativité des courants à l'Assemblée nationale. Regardez encore une chose. Les gens vont comprendre, même si je les combats férocement depuis que je me suis engagé en politique, mais il est quand même pas normal que Marine Le Pen, qui échoue deux fois, là, en 2017, enfin, elle a échoué trois fois en réalité, mais les deux dernières fois, elle échoue et elle n'a pas de groupe. Enfin, elle en aura peut-être un cette fois-ci, mais la première fois, elle n'avait pas de groupe à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est pas normal. Enfin, je suis désolé, je préfère combattre le Rassemblement national dans l'hémicycle de l'Assemblée du peuple plutôt que de les combattre dans la rue. Donc il faut qu'on permette effectivement à tous les courants de pensée de pouvoir être représentés à l'Assemblée nationale. C'est ça le but de la proportionnelle. Il y a ça d'une part, et d'autre part, je pense qu'il faut qu'on modernise notre système de vote. Enfin, c'est impensable aujourd'hui de dire que pour aller voter, il faut absolument aller mettre une enveloppe dans une urne, même si moi je le ferai tout le temps parce que j'ai sacralisé ce geste, mais je vois bien mes enfants. Ben voilà, faut vivre avec son temps, on est en 2022. Mes enfants, ils me disent, hein, papa, le jour où vous arrivez à mettre le vote électronique, bah ouais, le jour où il fait beau, bah, le jour où il fait pas beau, j'irai peut-être à l'urne. Mais le jour où il fait beau, où j'ai envie de me barrer à la campagne, bah avant de me barrer, j'irai voter. J'irai voter sur mon ordinateur. Ça, faut qu'on arrive à faire évoluer les choses.
Et pourquoi ça évolue pas?
Ben, ça évolue pas parce qu'on est dans une espèce de conservatisme, de sacralisation de l'acte, de peur de tricherie, alors que, bon, je suis désolé, la sacralisation de l'acte, ça n'a jamais empêché les tricheries. Hein. Moi, j'ai fait, alors, pas cette fois-ci, je n'ai pas vu, mais en 2017, quand je fais les tours des bureaux de vote pour les présidentielles, je suis quand même arrivé dans un bureau, je ne citerai pas la commune, mais je suis arrivé dans un bureau, bizarrement, il n'y avait plus de bulletin Emmanuel Macron. Je leur dis, ben, c'est pas grave, je vais vous en chercher. J'en avais pas, en fait, hein, j'ai pipoté. Ah non, mais attendez, bougez pas, et puis finalement, ils en ont retrouvé dans l'arrière-cuisine. Voilà, faut quand même pas raconter aux gens que il n'y a jamais de triche quand on fait du vote par scrutin à l'urne.
Alors on va continuer avec ce deuxième tour. Vous êtes face à Laurent Morin, un habitué hein, du deuxième tour au municipal sur la liste conduite par Cyril Nôtre, deuxième tour au départemental face à Patrick Stefanini. Est-ce que Laurent Morin peut gagner selon vous? Parce que oui. Là on lit dans la presse locale que vous avez un boulevard, que tout va bien pour vous, ça y est, l'élection est faite.
Oui, bah si tout allait bien pour moi, j'aurais pas fait campagne toute la semaine. Moi, pour moi, une élection n'est jamais jouée tant que vous n'avez pas dépouillé le dernier bulletin, faut être clair. Maintenant, Laurent Morin, il y a quand même un fait qui est un peu incroyable, c'est que, et tout le monde sait très bien la campagne que j'ai faite, puisque je suis sur le terrain depuis le 7 mai, on a fait du porte-à-porte, on a fait des tractages dans 85 des 87 communes de la circonscription. Je crois que mes troupes ont en moyenne 400 bornes dans les pattes. Donc on a vraiment été sur le terrain tous les jours depuis le 7 mai. On a fait 33 rendez-vous le soir dans 33 communes différentes pour discuter avec les gens de manière un peu cool autour d'un verre en dégustant des produits locaux. Laurent Morin, on ne l'a pas vu pendant la campagne. En gros, il a fait campagne dans son salon.
Vous n'êtes pas croisé peut-être?
Bah si, je l'ai vu une fois sur le marché de Bonnières. Ouais, je suis honnête, je l'ai vu une fois sur le marché de Bonnières. Le Rassemblement National a des électeurs, je pense, qui sont toujours mobilisés, tout le temps. Chez eux, l'abstention, elle est vraiment moindre. Moi, il y a beaucoup de gens dont je sais pertinemment qui sont pour la majorité présidentielle, qui ne se sont pas déplacés. Ça, c'est une chose. Et puis, on avait aussi 14 candidats, donc ça, voilà. Donc, moi, simplement, ce que j'ai envie de dire aux gens pour ce deuxième tour, moi, je vais me battre jusqu'au bout, hein, jusqu'à vendredi soir, on va rien lâcher. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'ils réfléchissent non seulement au niveau national à ce que peut apporter un député RN en plus à l'Assemblée nationale, sachant qu'ils ne seront même pas le premier groupe d'opposition, donc ils n'auront même pas, par exemple, la présidence de la Commission des Finances. Ben, ils vont pas apporter grand-chose, d'ailleurs, ils vont rester sur ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, ils ont voté à peu près contre tout ce qu'on a proposé, même quand on a fait la loi sur le séparatisme, même quand on a fait la loi sécurité globale, ils ont voté contre. Ouais, un peu pour des gens qui prônent la sécurité à tout craint, pas tout à fait la même que la nôtre, un petit peu plus dure, certes, mais bon, voilà, même ça, ils ont voté contre. Et puis, on les a pas vus. Pour être honnête, on les a pas vus. Marine Le Pen venait sur les grands sujets qui concernaient le Rassemblement National pour faire son apparition à la tribune, et après, on les a pas vus. Bon, je vois pas ce qu'il va apporter de plus à l'Assemblée Nationale. Ils feront rien changer parce qu'ils n'auront pas de... Ils seront pas groupe d'opposition majoritaire. Ça, c'est pour le côté national. Pour le côté local, comment va-t-il faire pour essayer d'améliorer le développement économique, lutter contre la pauvreté, améliorer les transports, essayer de résoudre un petit peu la désertification médicale, tous ces sujets finalement qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens sur la 9e, eh ben, il pourra rien faire non plus parce qu'il aura aucun levier. Il aura accès à aucun ministère. Donc, voilà, faut que les gens aient ça en tête. Nous, on a quand même bossé sur la circonscription, hein, malgré ce que les opposants disent. L'hôpital de Houdan, et je vais rendre hommage aussi à Jean-Marie Tétart parce que moi, je suis pas de celui qui qui tire à la couverture à lui tout seul. Et je ne le savais pas en plus. J'ai su après qu'il avait bossé en parallèle de moi pour ça. On a quand même réussi à classer l'hôpital de Houdan, qui était un petit peu en danger, en hôpital de proximité. Ça veut dire quoi? C'est simple, ça veut dire plus de subventions. Ça veut dire que le centre de santé reste ouvert. Ça veut dire un nouveau mammographe. Et ça veut dire, le dernier truc qu'il nous reste à obtenir, c'est une espèce de, comment dire, je trouve plus les mots, de service des urgences du quotidien, pour éviter que pour une jambe cassée ou des choses comme ça, de la bobologie du quotidien, on envoie les gens à Dreux ou à Rambouillet. Voilà un exemple. Que va faire Laurent Morin là-dessus? Il ne pourra rien faire. On a développé, avec mes collaborateurs, j'en ai pas parlé parce que c'est une expérience qu'on menait, qu'on a appelé Plan Jeune 78, en lien avec les missions locales, avec Facivline, avec les associations d'entrepreneurs. On s'est dit, bon voilà, le constat sur les missions locales, il y a des jeunes, ils peuvent rien faire, ils peuvent rien en faire. On les a pris, on en a pris 15, avec un mentor qui était disponible 24 heures sur 24, dont la mission était de faire comprendre qu'on pouvait se réaliser dans une entreprise. Sur les 15, il y en a 11 qui ont soit un CDD, soit un CDI, soit une alternance. Il y en a 4 qu'on a perdu. Donc voilà, toutes ces choses-là, je pense, et la réindustrialisation de la Vallée de Seine, je pourrais vous parler de plein de choses.
Parlons-en deux minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Fabrique plus de voitures à flin.
Alors Renault, ce qui est intéressant, c'est que, un, il fabrique plus de voitures à flin, que oui, effectivement, une partie du personnel de Renault ne repartira pas parce que ça ne les intéresse pas non plus de passer sur le recyclage des voitures et qui, voilà, c'est pas leur cœur de métier et il va falloir qu'on leur trouve autre chose. C'est la raison pour laquelle, en relation avec le conseil départemental et la région, Renault va libérer des terrains, j'espère qu'ils seront récupérés par le conseil départemental, et on a déjà commencé à travailler pour essayer de mettre en place une filière qui pourrait intéresser les gens de Renault qui ne resteront pas sur cette partie recyclage automobile, de rentrer dans d'autres filières, notamment la filière du rétrofit. On va avoir un problème de décarbonation des transports routiers. J'ai mis en relation le conseil départemental avec une entreprise qui est plutôt sur la côte atlantique dans le sud et qui fait du rétrofitage de poids lourds, des 26 tonnes, des 40 tonnes, etc. Ça vous permet d'acquérir, enfin de transformer votre camion, votre tracteur de remorque, à un moindre coût, parce qu'aujourd'hui, acheter un électrique ou un hydrogène, c'est 6 à 8 fois plus cher que d'acheter un gasoil. Donc toute cette filière-là, il va falloir qu'on la développe. Il va falloir qu'on développe aussi toutes les filières de l'innovation de l'automobile. Mon grand rêve, 5 ans ne suffiront pas, mais mon grand rêve, c'est que cette vallée de la Seine de l'automobile des années 70 redevienne la vallée de Seine de l'automobile, mais de l'automobile de demain.
Alors, vous étiez député, enfin, vous êtes toujours député, mais vous étiez à la commission du développement durable. On va parler des déchets polluants retrouvés sur le futur site de la centrale solaire à Freneuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, il n'y a pas de solution. Après, les pouvoirs publics feront ce qu'ils voudront, mais
les pouvoirs publics.
Oui. Moi, je m'y opposerai. C'est que pas de construction de centrale solaire tant que le site n'est pas dépollué. Il n'y a pas de solution. On ne cherche pas. Ou alors, l'évaluation nous montre que cette pollution ne peut pas s'aggraver, qu'elle est contenue et qu'avec le temps, elle va disparaître. J'y crois pas trop.
C'est des métaux lourds.
Oui, c'est des métaux lourds, donc j'y crois pas trop. Donc, il faut dépolluer le site avant de faire quoi que ce soit.
Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pouvoir d'achat, si vous êtes élu?
Le pouvoir d'achat, la première des lois qui va être votée à partir du 28 juin, hein, puisqu'elle va arriver, le 28 juin, je pense, enfin cette semaine-là à l'Assemblée nationale, ça sera la loi de pouvoir d'achat. Il faut qu'on continue.
Alors expliquez-nous deux, trois grandes idées de cette nouvelle loi.
Continuer le bouclier tarifaire qu'on a mis sur l'énergie, parce que alors les gens s'inquiétaient. Moi, pendant mon circuit-tour, j'ai bien vu que les gens qui sont chauffés au fioul, par exemple, au fioul domestique, s'inquiètent pour la rentrée. Qu'ils ne s'inquiètent pas, on maintiendra le bouclier tarifaire. Et puis, pour ce qui concerne l'essence, en attendant que les pays de l'OPEP ouvrent un peu plus les vannes, il faut impérativement qu'on continue. On va le faire d'ailleurs jusqu'à fin août déjà dans un premier temps. Et si on doit continuer, on continuera après. Mais il faut qu'on arrive à mieux cibler les aides. Il n'est pas question d'enlever les aides à certains, mais il est question de rajouter des aides à des gens qui en ont le plus besoin. On peut parler des infirmières libérales, par exemple. On peut parler des entrepreneurs qui roulent beaucoup. Et puis, il faut qu'on voit comment on fait pour les salariés qui sont gros rouleurs aussi, parce qu'ils ils vont à leur travail en voiture, parce que les transports en commun ne fonctionnent pas forcément tout le temps bien, etc., etc. Ça, c'est un vrai boulot et compliqué à faire. Mais cibler les aides sur ceux qui en ont le plus besoin.
Dernière question. Êtes-vous pour ou contre la retraite à 65 ans?
Alors là, c'est un sujet, vous me dites qu'il me reste 2 minutes, ça va être compliqué.
Une même.
Ouais, une. Moi, je suis pour qu'on retravaille à nouveau sur la retraite par points. Déjà, première chose. Et je pense que le président va remettre ça sur le tapis. Pourquoi ? Parce que 1 euro cotisé donne droit à cotisation retraite. Et c'est le système le plus équitable. À partir de là, deuxième point, on travaille sur la pénibilité des métiers pour pouvoir effectivement déterminer l'âge de départ à la retraite en fonction de la pénibilité des métiers. Et trois, si effectivement on doit repousser pour arriver à l'équilibre, mais pour moi, les 65 ans, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord la retraite par points, ensuite la pénibilité pour déterminer quand vous partez à la retraite et ensuite on voit l'âge pivot.
Merci Bruno Millième d'avoir accepté notre invitation. Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à midi 18h. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Rubrique podcast puis élections législatives. À 8h30, c'est Laurent Morin, candidat du Rassemblement National, qui sera notre invité. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.